Et dans cette dimension de vivre des relations authentiques, il y a cette dimension également de culture de l'honneur. Et on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que la culture de l'honneur ? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la culture de l'honneur ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? À quoi et comment ? De quoi est-ce qu'on parle ? Comment ? Et du coup, on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Vous êtes avec moi ? Ok, on y va ensemble. Du coup, quand on parle de culture de l'honneur, j'aimerais juste la voiture, la taille. Merci, t'es adorable. La culture de l'honneur, c'est fait partie de ça. Merci. De la culture, de la hiérarchie, des richesses, ta voiture, ta Ferrari, ceci. Waouh, t'es riche, on va te donner de l'honneur. Et quand vous regardez la Bible, c'est tellement aux antipodes, c'est tellement pas dans cette valeur-là. C'est tellement aux antipodes de notre culture à nous terrestre. Et également, la culture chrétienne, la culture du ciel, elle vient en contrecarrer le pharisaïsme qui honore en apparence, mais qui rabaisse en réalité. Romains 12, verset 10, « Ayez de l'amour les uns pour les autres, honorez-vous les uns et les autres plus que vous-même. » C'est touchant, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que, les amis, on veut vivre ici une culture différente. Et on démarre une culture de l'honneur. Et puis, en parlant de ce message, je réfléchissais, je priais. Et je dis, c'est quand même compliqué parce que si vous allez au ciel, regardez, attention, whoop, on est au ciel. Il y a des anges qui sont là. Dans le ciel, il y a une culture où Dieu est le roi. Il y a un ordre hiérarchique, il y a plein d'activités, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui croient que quand on va aller au ciel, on va s'ennuyer. Non, il y a de l'activité. On ne va pas être simplement avec, en train de manger une pomme. Avec, il y a un peu cette vision féerique des anges qui sont là avec une mandoline. Non, il y a de l'activité, il y a plein de choses qui se passent dans le ciel. Et dans le ciel, il y a une culture, il y a une façon d'être, il y a une façon de se parler. Et nous, on veut vivre la culture du ciel. Et nous croyons qu'il est possible d'amener la culture du ciel sur terre. Vous êtes avec moi? Et quand on amène la culture du ciel sur terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'environnement, il y a l'atmosphère qu'on a dans le ciel. Vous êtes encore là? C'est pour ça que lorsque Jésus dit « Priez notre Père que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. » C'est bon, vous êtes là, vous me suivez. Du coup, il est possible de vivre sur terre, parmi les guerres, les bombardements, parmi tout ce qu'on vit de nauséabond sur terre, il est possible de vivre avec un ciel ouvert au-dessus de nous. Wouhou ! Je veux mon COPP, mon ciel ouvert permanent et personnel. Dites avec moi, je veux mon COPP. Ciel ouvert permanent personnel. Quand vous arrivez le lundi matin, que tout le monde fait la tête à la machine à café, et bien là, vous avez votre ciel ouvert, vous amenez la culture du ciel autour de vous. Et c'est quand même un peu compliqué, les amis, on ne va pas se cacher. C'est quand même compliqué parce que nous, la culture, on n'y a jamais été dans le ciel. Vous y avez déjà allé au ciel ? Moi, pas. Donc la seule vignette, les seules capsules que nous avons, c'est quand on lit la Bible. Et on voit certains personnages bibliques qui ont bouleversé la vie des gens autour d'eux parce qu'ils ont manifesté la culture du ciel. Vous êtes là? Et c'est tellement différent, c'est dur de vivre. On lit un texte et on a des fragments de la culture du ciel et on essaye, dans nos rapports humains, les uns envers les autres, d'appliquer et de vivre la culture au ciel. Mais on essaye de vivre une culture à partir d'un livre qu'on lit. Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a personne qui vient du ciel à part Jésus. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Vous comprenez? Donc on essaye de vivre un truc ensemble qu'on n'a jamais visité le pays réellement. Vous êtes là? Laissez-moi vous expliquer ça. Pendant 14 ans, j'ai vécu à Paris. Et à Paris, il y a une façon de conduire à Paris. À Paris, c'est comme en Indochine ou comme en Inde. J'aime l'Indochine et j'aime l'Inde, mais il y a une façon, il y a un code de la route qui est un peu particulier. Il y a le code de la route que tu apprends en vrai, mais il y a le code de la route à Paris. Et à Paris, comme on conduit, mais même moi, sans m'en rendre compte, tu sais, je doublais, les feux rouges, c'est accessoire, tu vois, les feux oranges, c'est tu passes, les feux verts, c'est OK. Et s'il y a un truc à Paris qu'on ne fait jamais, mais jamais, c'est de laisser la priorité à un piéton. C'est comme ça. Ils ne font pas partie de ton spectre en face de toi. Mais en fait, c'est dans notre culture. Tous les Parisiens ne s'arrêtent jamais quand il y a un piéton. Et du coup, maintenant, les piétons, ils voient une voiture arriver, ils s'arrêtent comme ça, ils te laissent passer, après les piétons passent. C'est comme ça, c'est chez nous. Sauf qu'un jour, Elisa, mon épouse, est invitée à une conférence collective chez Ouvert, pour ceux qui connaissent, un groupe de louanges, blablabla. Bref, on va là-bas et j'arrive en Belgique. Et en Belgique, le piéton, il a la priorité pour de vrai. Vous comprenez ? Pas comme à Paris. Mais sauf que moi, comment dire, je suis un Parisien dans ma façon de conduire et je vais naturellement. Et il y a un moment donné, moi, je pense en Belgique que le Belge, il va se comporter comme un Parisien. Sauf qu'un Belge, lui, dans son environnement, dans sa culture à lui, il a vraiment la priorité. Et quand il traverse la route, les voitures, elles s'arrêtent pour vrai. Et sauf que moi, il y a une espèce de confusion et je me mi-Paris, mi-Belge, je suis en face. Et au dernier moment, j'ai pilé, j'ai failli l'écraser. Et le Belge, il ne comprend pas ce qui se passe, tu vois. Il vient, il me regarde le regard menaçant, il me montre par terre les passages cloutés. Et quand il a vu ma plaque, il a compris. Il a dit, toi, tu n'es pas de chez nous, maudit français. En tout cas, c'était... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'ils ont une autre culture. Ils ont une autre façon de conduire, de vivre. Est-ce que vous me suivez ? De la même façon que quand on va au ciel, ils ont le ciel à sa culture, à ses propres codes, à sa propre hiérarchie, à son propre environnement. Et nous voulons vivre ici, à Grenoble, à Connect Grenoble, la culture du ciel. Et la culture de l'honneur est un des piliers centraux qui sous-tend, qui tient tout le ciel, et on va le voir ensemble, de quoi il est question exactement. D'accord ? Vous êtes avec moi ? Du coup... on l'a vu ici, on l'a vu la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, je vous invite à réécouter les messages qui ont été apportés la semaine dernière, où on a vu ensemble une des personnes qui a manifesté énormément la culture de l'honneur dans un environnement parfaitement hostile. C'était David, et on va continuer avec David. David, pour vous illustrer, si vous n'avez aucune culture biblique, c'est David est un petit berger qui a été arraché de son troupeau et qui a été propulsé dans la cour du roi, un palais magnifique où il va être littéralement employé, embauché pour pouvoir jouer de la guitare aux côtés du roi. Parce que lorsqu'il joue, la présence de Dieu est telle que tout l'oppression démoniaque qui est autour du roi s'en va. Et David, c'est comme si il s'est inscrit à une université qu'il ne il savait pas, c'est l'école de Dieu. Dieu l'a invité dans son palais, il l'a mis là. Il l'a mis sous les ordres d'un roi fou comme Saül. Et quand on regarde le texte, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a pas protégé ? Dieu l'a protégé. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas empêché de souffrir de ce roi qui est fou ? Et c'est des questions qu'on peut se poser. Et David a accepté cette situation. Il a embrassé toutes ces circonstances cruelles, même peut-être injustes et très certainement injustes. Il ne s'est pas vanté de sa piété. Il a été blessé par ce comportement de ce roi fou. Il a été tué même dans son âme. Il y a des moments où il exprime dans des psaumes ce désarroi, cette désolation, cette solitude. Sa personnalité même peut-être, elle a été modifiée. C'est ce qu'on appelle l'école du brisement. Et mes amis, j'aimerais vous dire, c'est que Dieu a oint David quand il avait 16 ans et il est devenu roi à 30 ans. Il y a beaucoup de gens, quand vous recevez une parole de Dieu, vous pensez qu'elle va s'accomplir la semaine prochaine. Mais entre le moment où Dieu vous fait une promesse et le moment où elle s'accomplit, il y a un temps. Et ce temps-là devient le jeu, le terrain dans lequel l'ennemi va tout faire pour pouvoir te dévier des promesses que Dieu a pour toi. Prochaine diapo, le lendemain, un mauvais esprit venant sur Saül saisit Saül qui était dans la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en disant « Je frapperai David contre la paroi ». Il a jeté sa lance, mais David l'évita par deux fois. Saül a jeté des lances sur David parce qu'il sentait menacé. Et David, à ce moment-là, a dû se poser peut-être une seule question, et c'était probablement la seule. Qu'est-ce que je dois faire contre quelqu'un qui me jette une lance? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois réagir? Il y a quelqu'un qui est violent, quelqu'un que Dieu a mis même en autorité sur ma vie, qui se comporte mal, pas de la bonne façon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y a beaucoup de gens, et le monde d'aujourd'hui, dans la culture dans laquelle on vit, c'est très simple, c'est quand on vous envoie une lance, vous l'esquivez, vous la reprenez et vous l'envoyez deux fois plus fort. C'est ça qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et quand vous agissez ainsi, vous montrez trois choses. La première, c'est que vous êtes courageux, courageuse. La deuxième, c'est que vous ne vous laissez pas faire, vous vous défendez, c'est juste, c'est normal. Et la troisième, c'est que vous êtes solide et pas facilement manipulable. Et finalement, des années plus tard, il est possible que vous deveniez comme un Saül. Et en réalité, c'est tout ça le cœur du message, c'est que dans ces moments-là, dans ces moments où il y a ces espèces de... Il y a en réalité ces deux royautés qui sont en train de voir le jour, il y a en réalité deux ordres, deux cultures, deux environnements différents. Il y a la culture de Saül qui te dit « quand tu es une menace, je vais te tuer, je vais te rabaisser ». Et il y a la culture de David qui est la culture du royaume de Dieu que nous voulons vivre ici à Connect Grenoble. Donc ces choses sont arrivées à David, mais elles nous servent à nous d'exemple. Et en fait, il y a l'ordre, ce que j'appelle cette culture, l'ordre du roi Saül qui est devenu fou, et l'ordre du roi David, le oint de l'Éternel, qui consiste à honorer et bénir ceux qui ne le méritent pas. Et dans cette situation de crise, c'était sa vie dont il est question. Et Saül, et je vous invite à le lire, Saül va se mettre, David, quand sa vie est menacée, David va s'enfuir du palais. Il va s'enfuir tout seul. Il n'a pas fait une division. Il n'a pas dit à des gens du royaume, venez, suivez-moi. Il est parti tout seul. Et il y a des gens du royaume de Saül qui, l'ayant appris, ont décidé de se joindre à David. Et David, il était appelé de Dieu à devenir roi, il va quitter le palais, cette mentalité, cette culture pour démarrer quelque part une nouvelle culture que Dieu lui montrait. Et parfois, souvent, les amis, c'est à l'école du brisement que Dieu va forger au fond de toi le futur reine, le futur roi, la future reine. Alléluia. Et pour David, eh ben, désormais, les cavernes étaient son château. Et les fossés étaient son foyer. Et là, s'il venait avec moi dans le texte, allons à côté de David, qu'est-ce qu'on dirait? Ah, il est beau le roi, n'est-ce pas? Ah, appel de Dieu, wouhou! Est-ce que David était appelé de Dieu? Est-ce que David était au meilleur moment de sa vie? Peut-être pas. Et ceux qui décidèrent de le suivre, c'était des compagnons d'infortune, des voleurs, des menteurs, des insatisfaits, des blessés du royaume de Saül, des gens qui avaient des crédits, des dettes, les mal-aimés, des rebelles au cœur rebelle. Franchement, il y a mieux pour démarrer un royaume. Est-ce que vous me comprenez? Il y a mieux pour démarrer une nouvelle église, une nouvelle culture. Est-ce que vous suivez? Ils auraient créé une division au paradis si on lui en avait donné accès. Et David ne leur a pas parlé de soumission. David n'a pas commencé à leur parler d'autorité. David n'a pas commencé à s'imposer. Il a simplement agi avec une culture différente en leur montrant quelque chose de différent. Et j'avance, première diapo, voir le meilleur dans la vie des gens. David, il y a eu ce moment-là, on l'a vu ensemble la semaine dernière, et je reviens un peu sur certaines, à la fois je fais des résumés récapitulatifs et je transpose sur les autres points que j'aimerais vous amener. David et tous ces gens-là, il y a à peu près, la Bible elle parle de 400 hommes, si on part du postulat que les hommes étaient mariés, ça fait déjà 800 personnes avec leurs femmes, puis si on parle des enfants, on monte facilement à 1200-1500 personnes. Donc David... Et avec 1500 personnes, hommes, femmes et enfants et la troupe, en train de vivre dans une caverne. Wouhou ! Elle est belle la vision. Ha ! Faut vraiment que Dieu vous parle pour accepter de vivre toi et tes gamins dans une caverne, vrai ou pas vrai? Les amis, le projet la semaine prochaine, voilà, les jeux pour la famille vont se passer aux cavernes de Sassenage et on va passer toute l'après-midi là-bas, en quelques années peut-être. Et voilà, Jérémy sera là, il y a Gaël, on va s'organiser un peu pour la popote. 1000 personnes, t'imagines le truc? Waouh! Faut être motivé quand même. Ils étaient là, en train de suivre cette nouvelle culture, cette nouvelle façon d'être. David, je les lis avec vous, voir le meilleur dans la vie des gens. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Et il y a ce moment-là où Saül, qui est le roi de la culture opposée, qui veut tuer David, vient juste devant la caverne pour se reposer. Et David a cette possibilité de le tuer. Et les gens qui étaient avec David disent « Voici le jour où l'Éternel te le dit. Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » Et David retient ses hommes. David se leva et coupa doucement un pan du manteau de Saül. C'était ce manteau royal, ce manteau éclatant, plein de couleurs. Et après cela, il eut le cœur qui battit parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens que l'Éternel me garde commettre contre mon Seigneur. Waouh ! Le oint de l'Éternel, une telle action de porter la main sur lui, car il est le oint de l'Éternel. Et par ces paroles, David arrêta ses gens et il les empêcha de se jeter, de tuer Saül. Puis Saül se leva, sortit de la caverne et continua son chemin. Mes amis, il y a deux facettes ici à la culture de l'honneur dont on veut vivre. Parfois, la culture de l'honneur consiste à voir dans les gens, non pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ce qu'ils peuvent être un jour. Et David avait cette capacité de voir parmi ce ramassis de gens qui étaient son armée, des gens qui étaient durs, des gens qui étaient blessés. David disait, « Ok, t'es peut-être blessé, mais je vois ton futur, je vois des choses qui arrivent devant toi. Waouh, je n'ai pas de regard simplement dans la saison dans laquelle tu es, je vois ton futur. » Et il y a cette dimension là où on dit, « Waouh, c'est beau, c'est ton futur. » Et David l'a fait avec ses hommes, mais également, il y a cette deuxième facette, c'est qu'il a vu dans Saül l'homme qu'il était avant. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit en David, il a dit, je ne vais pas toucher au roi de l'Éternel, à mon Seigneur. Mais vous vous rendez compte, là, dans notre mentalité moderne à nous, on dirait quoi? Mais ce n'est plus notre Seigneur. Tu as vu ce qu'il nous a fait? Il faut se venger. Il a perdu son titre. Il a perdu le jour où il a voulu tuer David. Est-ce que vous me suivez? David a décidé de l'honorer. Non pas parce qu'il est devenu, mais parce qu'il était avant. David voyait du bon Saül dans son passé. David, il disait avant, c'était un oint de l'Éternel. Il y a bien longtemps, il n'était pas fou. Il était jeune, il était grand aux yeux de Dieu et aux hommes. David voyait le bon dans Saül, même quand les circonstances montraient qu'il était un roi détestable. Et la culture de l'honneur, les amis, ce n'est pas de voir simplement les gens sur une saison de leur vie. Parfois, il y a des gens que vous allez avoir autour de vous. Ils sont au pire moment de leur vie. Et vous allez les juger sur ce seul moment-là, alors que la dernière chose dont ils ont besoin, c'est de vos jugements. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être soutenus, c'est que vous croyez en eux à ce moment-là où ils en ont le plus besoin. Est-ce que vous me suivez? Qui était Saül? Avant de devenir roi, Saül, c'était un garçon de ferme, c'était un paysan qui élevait des ânes. Il était grand, il était beau, il était aimé, il était rempli de l'Esprit de Dieu. De bonne famille, il avait toutes les qualités pour gouverner. Et quand vous lisez le texte, il a créé une armée à partir de rien. Il a gagné des batailles par la puissance de Dieu. Il y a même à un moment donné où il était rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prophétiser. Waouh ! Saül était tout ce que tout le monde voudrait être. Quelqu'un de rempli de la puissance du Saint-Esprit, capable de faire des choses extraordinaires. Et il y a une leçon en tout cela. Vous savez c'est quoi ? C'est que la vie spirituelle, parfois, elle est faite de vallées et de montagnes. Nous, on a tous cette vision un peu, je dirais, folklorique, un peu Walt Disney. C'est qu'on croit toujours que notre vie spirituelle, elle va être en tendance haussière et on va faire que de grimper et de monter. Vrai ou pas vrai? Mais la vie spirituelle, on est des vrais chrétiens de pente. Elle est faite de pente et de côte. Est-ce que vous me suivez? Yeah. mais c'est vrai. On pense, on a cette folle idée, on va tout le temps aller de progrès en progrès. Non ! Il y a des moments dans ma vie où j'ai perdu de la passion pour Dieu. J'ai perdu de la consécration. Et je me suis égaré dans mon désert. Et j'ai fait un petit voyage loin de Dieu. Eh bien, j'ai appris que c'était mieux proche de lui que loin de lui. Est-ce que vous me suivez ? J'ai pas toujours été passionné. Il y a ces moments-là de vallées sombres, des saisons où vous allez peut-être même diminuer spirituellement, où vous allez peut-être même vous perdre, où la passion de Dieu va diminuer. Et dans cette école, parfois, du brisement que la vie nous amène, que la vie nous réserve, Dieu va vouloir transformer notre caractère, arracher ce qui ne le glorifie pas, pour faire sortir le roi et la reine qui sommeillent au fond de vous. Soit tu meurs au désert, soit tu en sors transformé. C'est toi qui décides l'issue des deux situations. Dieu est intéressé par une seule chose, c'est la croissance spirituelle de Christ à l'intérieur de vous. Écoutez-moi bien, nous avons été déformés par le péché. Et Dieu a ouvert son école de réhabilitation de Jésus, le Fils parfait, la fille parfaite qu'il change. Et c'est l'image de Dieu à l'intérieur de vous que Dieu transforme. L'image de Jésus qui est restaurée à l'intérieur de vous. Et nous, parfois, on est très intéressés parce que tout ce que nous pouvons faire pour lui, or Dieu est intéressé par tout ce qu'il fait en nous. On veut devenir grand, fort, puissant, admiré. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous renonçons à nous-mêmes, renonçons à notre vie, à notre ego, mourir à nous-mêmes, porter notre croix et accepter de ressembler à Jésus-Christ. J'avance. Deuxième, ta réaction va déterminer celle de tes ennemis. Puis Saül, donc il y a ce moment-là où David n'a pas voulu tuer Saül parce qu'il voyait quelque chose de bon en lui. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David sortit de la caverne, il se mit à crier après Saül, « Oh mon roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina. Waouh ! Il s'inclina à terre, il se prosterna devant ce roi fou. David dit à Saül, « Pourquoi est-ce que tu écoutes les propos des gens qui disent « Voici, David va chercher ton malheur. Vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Et voici ce que dit David, vois mon père. » Ce n'était pas son père, pourquoi est-ce qu'il l'appelle mon père ? Il y a cette marque d'affection. Il dit, vois mon père, vois le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu dresses des embûches, tu veux m'ôter la vie, l'Éternel sera juge entre toi et moi. Des méchants viennent de la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Ainsi, je ne porterai pas la main sur toi. Écoutez bien ceci. Et lorsque David eut fini de s'adresser à Saül, en ces paroles, Saül dit, est-ce bien la voix de David, mon fils ? Et Saül éleva la voix, il pleura, il sanglota. Et il dit à David, t'es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué, si quelqu'un, n'importe qui, rencontre son ennemi, le laisserait-il poursuivre tranquillement son chemin ? Que l'Éternel te récompense parce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera stable, affermie entre tes mains. David dit, on m'excitait à te tuer. C'est qui le on ? C'est le monde. C'est la culture qu'il est en train de quitter. C'était l'autre culture. Ces gens autour de lui. Merci. C'est tout ce que le monde aurait fait à ma place. Voici, c'est qui le on ? Et lui disait, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur parce qu'il est loin. J'ai décidé de ne pas te tuer parce que tu étais grand dans le passé. David appelle Saül ce qui était mort en lui. David appelle Saül, en fait, avec... David appelle quelque part sa relation qu'il avait avec Dieu. Il l'appelle, c'est comme s'il vient vers mon roi, il dit « Mais t'étais pas comme ça avant, il y a un appel de Dieu sur ta vie, je te vois différemment. Saül, reviens, t'es mon père, t'es un homme de Dieu, t'es une femme de Dieu, c'est endormi en toi. Saül, ce n'est pas toi d'agir comme ça. Je t'ai vu agir avec droiture par le passé, reviens à la raison. » Et Saül se met à pleurer, il sanglote, il y a une espèce de soubresaut, il pleure, c'est comme s'il y a un moment de limpidité, il revient à la raison. Il y a un réveil dans sa folie meurtrière. Il est secoué par l'Esprit de Dieu, il y a un espèce de moment de repentance parce qu'il prend conscience de tout ce qu'il aurait pu être pour David et ce qu'il n'a pas été. Il aurait pu être un père pour David. Il aurait pu être un roi qui était bon pour ce petit berger qui n'a pas eu de père, qui l'a aimé, qui l'a couvert de tendresse et d'affection. Il aurait pu être une source de bénédiction et d'encouragement. Et il ne l'a pas été. Mais en agissant différemment, tu ouvres la voie à quelque chose de différent dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est qu'à un moment donné, si on veut vivre quelque chose de surnaturel, il faut mettre quelque chose en place qui, même dans le cœur des gens qui te veulent du mal, il y a une forme de lumière, l'onction qui est sur toi va éclairer tes ennemis. Par tes attitudes, tu vas changer l'attitude des autres et même de tes pires ennemis. Est-ce que vous êtes avec moi? Saül dira, tu m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, est-ce qu'il le laisserait poursuivre son chemin tranquillement? Saül est en train de dire, agis différemment de comment moi je t'ai traité. Dans ma culture à moi, dans mon ordre à moi, dans mon royaume, dans ma sphère, on ne laisse jamais partir son ennemi s'il a ta merci. Et cet ennemi aujourd'hui, c'est moi, David. Et tu m'as fait grâce. Et en fait, ce qui a fait pleurer Saül, c'est que pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui a fait grâce alors qu'il ne le méritait pas. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Dans le Nouveau Testament, avec Jésus, qui nous a fait grâce, qui ne nous a pas traités selon nos péchés. On a tous besoin, nos amis, à un moment donné de notre vie, que quelqu'un nous fasse grâce, que quelqu'un nous aime, alors qu'on ne le mérite pas, alors qu'on n'a pas fait quelque chose qui était bon, alors qu'on est dans la pire saison de notre vie, que quelqu'un vient et nous manifeste de la grâce, ça nous change, ça nous transforme. Quelqu'un qui nous accepte de ne pas nous condamner selon nos fautes, alors que nous le méritions. Et quelque part, le fait d'accepter cette grâce envers nous nous libère pour libérer les autres. Une des choses, elle n'est pas là ce matin, mais une des personnes qui m'a le plus manifesté de la grâce dans ma vie, c'est mon épouse, Elisa. J'ai fait, Seigneur, j'ai fait le pire et le meilleur, et parfois c'est dans le pire que j'étais le meilleur. Et à chaque fois, elle m'a fait grâce, elle me jugeait pas. Je dis, mais comment tu fais ça? Elle vient d'un environnement, je venais d'un arrière-plan qui est complètement différent de elle. Elle avait comme une autre spiritualité, elle avait une autre façon de vivre sa foi avec Dieu. Et le fait de vivre autant de grâce m'a changé avec les années. Ça m'a transformé. Ça a fait de moi la meilleure personne que je suis. Mais c'est parce que quelqu'un me l'a montré. C'est quelqu'un me l'a a agi comme ça envers moi et m'a transformé. Et parce que tu agis avec honneur, l'avenir avec toi. Et voilà, et je termine avec cette dernière phrase. Saül dira à David, tu manifestes aujourd'hui de la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Maintenant, je sais que tu régneras. Waouh ! Et la royauté d'Israël sera stable entre tes mains. Écoutez bien ceci. Saül, c'est le roi. Il voit cette nouvelle culture, cette nouvelle façon de faire et de gouverner. Et Saül reconnaît ça, il est bénéficiaire de cette grâce et il voit prophétiquement l'avenir et le royaume de David. Et il dit, David, parce que tu as agi comme ça avec moi, parce que tu agis avec honneur, l'avenir avec toi, sous ton gouvernement, dans ta culture, dans ce royaume-là, les gens vont être différents parce que l'Esprit de Dieu qui est sur toi est différent. Les amis, on parle de Dieu, il est avant tout un roi avec son royaume, sa culture, je vous l'ai dit au début, et on veut vivre ici à Connect Grenoble, la culture du ciel. Et ça commence par comment est-ce qu'on se traite les uns les autres, ça commence par comment est-ce qu'on se parle les uns aux autres, ça commence par comment est-ce qu'on se fait grâce l'un avec les autres. Vous êtes avec moi ? J'ai des gens autour de moi, quand je suis un peu dur, qui me rappellent la grâce. Il y a ma femme, il y a Flo qui est ici, j'ai quelques garde-fous, des gens qui me disent « Attention, attention, c'est pas la culture de l'honneur. » Je fais « T'as raison. » Vous comprenez ? Et parfois, j'ai quelqu'un qui vient, très cher à mon cœur, et qui m'a dit « Attention, c'est pas ce que tu m'as vendu au début. » Et même quand moi je chute, même quand ça m'arrive, vous avez le droit et je vous autorise à dire « Attends, c'est pas ce que tu nous as prêché, pasteur. C'est pas ce que tu nous as dit. » Est-ce que vous me suivez ? Il y a des moments, il faut qu'on s'exhorte, il faut qu'on se reprenne ensemble. Et quand vous lisez ce texte-là, dans ce moment avec Saül et David, j'ai une question à vous poser. Qui est le vrai roi dans l'histoire ? Qui est le roi ? C'est celui qui a le titre, la fonction, la position, le manteau royal ? Si c'est ça, c'est Saül. Ou est-ce que c'est celui qui a le cœur ? Dans l'Antiquité, seul un roi pouvait gracier un condamné en lui attribuant et en lui faisant grâce par une lettre de rémission. Et à ce moment-là, les amis, qui était le roi ? Eh bien, c'est David. Et Saül le voit et il reconnaît David qui agit comme un roi avec la culture du royaume. Et de cette caverne est sorti le futur roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. David avait l'occasion de prendre la couronne, mais il a choisi le cœur de Dieu. Ce n'est pas l'épée ou la vengeance qui fait un roi selon Dieu, mais c'est la grâce. Car faire grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est ressembler à Dieu. J'aimerais vous dire ceci et je clôture là. Il y a un fou et un roi dans le cœur de chaque homme, de la même façon qu'il y a une folle et une reine dans le cœur de chaque femme. Et ma femme me dit souvent, si je parle au fou à l'intérieur de toi, j'ai une réponse de fou. Mais si je parle au roi, je vais avoir un roi qui me répond. Et inversement, si je parle à ma femme comme une folle, je vais avoir une réponse de folle, folle furieuse. Mais si je la traite et je lui parle comme une reine, je vais avoir une reine qui me répond. À qui voulez-vous parler ? Et la vie va toujours mettre face à des choix, des défis, des situations où elle fera émerger soit le pire, soit le meilleur de vous-même. C'est pourquoi Dieu désire nous transformer à l'intérieur. Il veut que ce soit ni le fou, ni la folle qui règne, mais que ce soit Jésus, roi et prince de paix, qui se trouve en nous sur le trône de nos cœurs. Il veut gouverner en nous, rayonner au travers de nous. Alléluia, Amen et Amen. Est-ce que vous voulez le vivre ?